Tinuga ne sont pas un peuple, mais une cinquantaine d'ethnies très différentes les unes des autres, qui ont pour trait commun que ce sont des groupes d'origine africaine qui vivaient dans le Soudan central depuis des temps immémoriaux, ou bien qui se sont réfugiés dans ces montagnes à la fois pour des raisons de défense, parce que ce sont des agriculteurs pour l'essentiel, et qu'ils pouvaient être en butte aux attaques de nomades dans la plaine, mais aussi parce que ces collines étaient des endroits tout à fait propices à l'agriculture. Alors, ces peuples ont toujours été considérés comme des réservoirs d'esclaves par les pouvoirs en place, soit à Khartoum, soit dans la région, y compris d'ailleurs les pouvoirs venus d'Égypte au XIXe siècle et par les trafiquants d'esclaves. À partir de 1985, ils ont rejoint la rébellion du SPLA et pendant une quinzaine d'années, les monts Nouba ont donc été encerclés par l'armée gouvernementale, assiégés, empêchés de sortir, de se ravitailler. Ils n'avaient aucun soutien ni des ONG internationales ni du SPLA qui était centré sur le sud. À partir de 2005, il y a eu un accord de paix global entre le gouvernement central et la rébellion du SPLA, dans laquelle les monts Nouba ont été inclus par des protocoles annexes spéciaux qui prévoyaient une autonomie régionale. Tout ça s'est passé d'une manière assez satisfaisante jusqu'à ces derniers temps où, semble-t-il, le gouvernement soudanais, voyant arriver l'indépendance du Sud-Soudan et profitant du désintérêt de la communauté internationale, le gouvernement soudanais a commencé à mettre en œuvre la seule politique qu'ils connaissent, c'est-à-dire celle de la terre brûlée, de l'éviction des populations de leurs foyers et des massacres de masse.
On a le sentiment que le président soudanais Omar al-Béchir abat un peu ses dernières cartes pour rester au pouvoir. N'est-ce pas suicidaire pour lui de jouer la carte ethnique?
Je dirais que tout dépend de la réaction de la communauté internationale, dont on peut penser qu'elle sera très faible, hein, dans la mesure où elle est très occupée, beaucoup plus au nord, dans tout cet arc de crise arabo-musulman. Le régime de Béchir réagit toujours en fonction de ce baromètre international et essaye de faire ses mauvais coups au moment où le monde a le dos tourné. Et puis, les Américains considèrent qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire en séparant le nord du sud du Soudan, sans tenir compte du fait que cette frontière était artificielle et que le problème, ce n'est pas la différence de religion, ce n'est pas la différence ethnique entre les gens, c'est le partage des ressources. Et derrière tout ça, c'est la démocratie et c'est le modèle de développement qu'on peut choisir.
Après le Darfour, est-ce qu'il faut craindre un nouveau génocide aujourd'hui au Soudan ?
Pour le Darfour, il y a certainement eu un manque de volonté politique, une malhonnêteté intellectuelle, je dirais, à l'égard des populations du Darfour qui n'intéressaient personne. Finalement, ça a été un balai de personnalités médiatiques et politiques. On s'est moqué des gens du Darfour qu'on a laissé mourir alors qu'on aurait pu les sauver. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on interviendrait pour des groupes qui sont moins nombreux, qui ne présentent aucun intérêt à l'échelle régionale et internationale. Les autorités sud-soudanaises ne sont pas prêtes à mettre en danger leur indépendance pour défendre ceux qui les ont défendus pendant la guerre, c'est-à-dire les Nouba, comme les habitants du sud de l'île bleue, qui se sont engagés en masse dans le SPLA, qui sont allés se battre à des milliers de kilomètres de chez eux pour défendre les sudistes. C'est la survie de la dictature qui est en jeu, beaucoup plus que la survie du Nord-Soudan en tant que tel.